Bonjour frères et sœurs en Christ, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. Si vous buvez du café, il y a de fortes chances que vous y mettez du sucre, si vous avez la possibilité de le faire. Et il y a certaines autres boissons où nous allons mettre du sucre également, comme un jus de citron pressé par exemple. Nous ajoutons du sucre parce que ces boissons sont très amères. L'amertume, parfois nous apprécions jusqu'à un certain point, mais au-delà d'un certain seuil, ça devient désagréable. Il y a une autre boisson qui était fabriquée et qui est de nouveau fabriquée en France maintenant, c'était interdit pendant un moment, qui est faite à partir d'une plante amère et même légèrement toxique. Dans de grandes doses, on peut en mourir si on en mange ou boit trop. Les Romains de l'Antiquité connaissaient cette plante et l'utilisaient pour soigner les troubles digestifs. Et plus récemment, le médecin français Pierre Ordinaire l'a propagé au XVIIIe siècle avant de vendre la recette à Henri-Louis Pernod en 1797. Il a produit cette boisson en Suisse et puis la fabrication a été déplacée à Pontarlier. Il s'agit de l'absinthe. L'absinthe était interdit depuis 1915 jusqu'en 2011, quand elle est devenue légale de nouveau. C'était une boisson très amère, et comme j'ai dit, si on en buvait trop, ça pouvait être fatal. Il provoquait, du moins on le croyait à l'époque, une accoutumance, et même des troubles mentaux, ça pouvait, mais en même temps, la boisson causait une certaine exaltation de la sensibilité. Alors, beaucoup d'artistes aimaient bien boire leur absinthe. Ils croyaient que ça aidait dans leur créativité. La Bible utilise des analogies avec des plantes comme l'absinthe pour souligner une certaine attitude qui a déjà causé d'énormes dégâts chez les chrétiens et dans l'Église de Dieu. J'aimerais prendre avec vous, s'il vous plaît, Hébreux chapitre 12, verset 12, pour commencer notre étude de ce sujet très important aujourd'hui. Hébreux chapitre 12, verset 12. Hébreux chapitre 12, verset 12. Là, nous pouvons lire, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient affectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. J'ai donné comme titre à ce sermon « Aucune racine d'amertume ». Parce que l'amertume, c'est pas seulement un goût dans la bouche, c'est aussi une attitude qui peut prendre place en nous, et plusieurs peuvent être affectés. Ça ne nous touche pas uniquement nous, ça peut infecter également d'autres personnes. L'amertume nous a tous touchés à un moment donné ou à un autre dans la vie, mais pour certaines personnes, cela s'enracine vraiment et ça devient comme un mode de vie pour eux, leur façon de voir le monde. Nous devrions nous examiner à l'approche de la Pâque et la fête des pains sans levain, pour voir s'il y a une racine d'amertume qui a peut-être pris place en nous. Certaines choses à noter ici. D'abord, il est question de racines sous terre, pas visibles, qui dorment pendant l'hiver peut-être, jusqu'à ce que les conditions permettent que les rejetons sortent. C'est ce que font les racines. Les racines sont parfois très importantes. Certains arbres ont un réseau de racines tellement développé que vous voyez ce que vous voyez hors du terre, c'est ce qu'il y a en dessous du niveau de la terre. Une attitude, comme une attitude d'amertume, peut aussi rester cachée pendant un certain temps. On ne va pas le voir constamment. Ça va sortir quand les conditions sont propres à une repoussée. Et puis nous avons vu aussi dans ce passage, plusieurs peuvent être affectés. Comme j'ai dit, une attitude d'amertume va nous toucher, va tordre notre façon de voir le monde, notre façon de penser, mais peut également affecter d'autres personnes. Une attitude d'amertume peut nous éloigner de Dieu. Et une attitude d'amertume affecte également notre entourage. Si nous sommes mariés, nos conjoints, nos enfants, nos frères dans la foi. Et c'est surtout contre cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous met en garde. Plusieurs peuvent être affectés. Le mot dans le grec, le mot traduit par affecté, veut dire avarié, contaminé, souillé, et donc impropre devant Dieu. Le passage que nous avons lu ici dans Hébreux chapitre 12 est peut-être une référence à un autre passage dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 29. Prenons Deutéronome 29. À partir du verset 16. Deutéronome 29, verset 16. Moïse est en train de renouveler l'alliance entre Israël et Dieu. Et il leur explique, vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur ne se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir ces dieux, les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. La plante était connue là, et c'était connu pour être toxique. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif ». Encore une fois, nous avons ce symbolisme d'une racine. Et maintenant, le mot absinthe est employé, une racine amère. Et ici, c'est comparé à la désobéissance à l'Éternel. En hébreu, nous trouvons le mot remise à jour et il est question d'une racine d'amertume, comme l'absinthe. Il est très important pour nous de travailler, de faire ce qui est nécessaire pour extirper l'amertume de nos cœurs et de nos esprits. Retournons dans le Nouveau Testament maintenant, dans Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Il est question encore une fois d'amertume, ici, dans ce passage. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ces mauvaises qualités que nous voyons ici, ces problèmes spirituels doivent disparaître du milieu de nous. Et en tête de liste, c'est l'amertume. L'amertume. Mais qu'est-ce que c'est l'amertume au juste? Amer, selon Larousse, veut dire qu'il a une saveur rude et désagréable, qui apporte de la douleur par sa dureté ou sa méchanceté. Et dans le sens biblique, amertume, c'est la colère que l'on garde enfouie dans son for intérieur. Et ça reste, c'est constamment là. La colère contre différentes choses ou différentes personnes. La Bible parle très longuement de ce sujet de l'amertume et de la colère qui est la motivation pour l'amertume. Ça commence par la colère, ça reste, et puis nous devenons aigris. Nous devenons amers et nous avons une attitude amère. Considérons certaines choses que la Bible dit à ce sujet de la colère qui va finir par être l'amertume si nous ne pouvons pas ôter de notre cœur et de notre esprit. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Verset 24. Proverbe chapitre 22, verset 24. Nous lisons, ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Faut pas fréquenter des hommes colériques, des gens colériques, parce que ça se répand, ça s'attrape un peu comme une maladie. Et ça peut être un piège pour notre vie. Il y a des personnes qui ont fait des folies sous l'emprise de la colère et ça leur a coûté la vie. Ils ont fait des bêtises sous l'emprise de la colère. Quand nous lisons au verset 24, l'homme colérique, littéralement, c'est un homme de chaleur, un homme qui est chaud, chauffé par la colère ou le rage. Nous ne devons pas fréquenter ces personnes-là. Et si nous trouvons cette tendance en nous, nous devons vraiment faire un effort pour le transformer en autre chose et aimer notre frère comme nous-mêmes plutôt que d'être aigre contre lui. Dans Psaume 37, verset 8, nous avons un autre passage qui parle de la colère. Psaume 37, verset 8. C'est marqué, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » S'irriter, c'est mal faire. L'irritation mène à la colère, et la colère mène finalement à l'amertume. Ces trois éléments sont liés entre eux. Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 21. Matthieu chapitre 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. » Pas commettre de meurtre. « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « raca, vide, idiot » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Ces deux choses sont mises ensemble, le meurtre et une colère contre quelqu'un violent tous les deux le même commandement. Parce que le fait de commettre un meurtre, ça commence par la colère, le dédain de quelqu'un d'autre, qui nous pousse dans ce sens, finalement. La colère contre les gens est une transgression du sixième commandement. C'est l'attitude qui mène au meurtre, et le meurtre est souvent précédé par une amertume. On blâme quelqu'un pour les mauvaises sensations qu'on a en soi. Alors, nous devons agir rapidement. Si nous ressentons le début de cette attitude-là, il faut intervenir rapidement pour l'arrêter. Sinon, ça ne va pas bien finir pour nous. Ecclésias chapitre 7 également. Ecclésias chapitre 7. Verset 9. Ecclésias chapitre 7. Verset 9. Ecclésias chapitre 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Des insensés. C'est insensé de garder cette irritation. Et pourtant, j'imagine que dans votre vie, vous avez rencontré des gens qui étaient très souvent, même parfois constamment, irrités contre quelque chose, contre différentes choses. On va en parler. Je vais vous donner quelques exemples concrets dans un instant de... là où l'amertume peut être dirigée. Le verset 14 dit, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Ça, c'est déjà une clé que nous devrions garder derrière la tête, une clé pour enlever l'amertume, c'est de nous dire, « Dieu a créé la vie comme elle est, il y a des bons moments et des moments difficiles. On se réjouit dans les bons moments et on réfléchit quand les choses deviennent difficiles, quand quelqu'un nous froisse, quand la vie ne tourne pas comme nous voudrions qu'elle tourne. C'est le moment de réfléchir et de nous rappeler que Dieu a fait l'un comme l'autre. Il nous donne la joie et parfois il nous fait passer par la frustration qui peut mener à la colère et finalement l'amertume pour que nous apprenions comment enlever ces choses, comment résister à ces tentations. Alors, parlons plus concrètement maintenant. Nous pouvons être amers envers ou contre qui ou quoi. Il y a plusieurs possibilités qui me viennent à l'esprit et qui se trouvent également dans la Bible. On peut être amer contre une personne à cause d'un tort que nous avons subi. Quelqu'un nous a dit quelque chose qu'on n'a pas aimé. Il l'a fait exprès peut-être, ou même sans le faire exprès. Mais ça nous dérange, ça nous froisse. Nous sommes, à cause de ce mal, nous commençons l'irritation, la frustration, la colère, tout ce processus. Des commentaires qui nous ont fait mal, une manque de gratitude, quelque chose qui a été fait qui nous a coûté de l'argent, ou même quelqu'un qui nous frappe physiquement. C'est rare, mais ça peut arriver. Qu'est-ce que nous devons faire quand nous subissons un tort de quelqu'un pour empêcher que cela ne devienne un problème, un piège à notre âme? Eh bien, regardons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons pardonner. Et je sais que ce n'est pas toujours facile de faire, mais c'est beaucoup mieux pour nous, long terme, de pardonner plutôt que de garder cette amertume en nous, qui finira par nous détruire. Et puis, si nous voulons que Dieu soit prompt à nous pardonner, et nous le voulons tous, nous devrions être prompts à pardonner également. Ça, c'est une façon d'empêcher, de casser ce cycle de colère qui mène à l'amertume, etc. Il faut pardonner. Parfois, on entend des gens dire des choses comme « j'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais ». Et en fait, ça, c'est pas vraiment le pardon. Quand nous avons gardé ce souvenir, ça c'est déjà le début de cette colère, frustration, irritation qui mène finalement à l'amertume. Ça ne marche pas. Si quelqu'un disait ça à vous, je vous ai pardonné mais je n'oublierai jamais, est-ce que vous vous sentirez vraiment pardonné? Moi non, je ne me sentirai pas vraiment pardonné. Dieu pardonne et il oublie. La Bible dit il n'a plus souvenir de nos péchés une fois que nos péchés sont pardonnés. Alors, le plus rapidement possible, nous pouvons demander l'aide de Dieu pour mettre ces erreurs commises par quelqu'un, les torts que nous avons subis, les mettre derrière. Moi aussi, j'ai déjà fait des choses comme ça à d'autres. Je veux qu'il pardonne, je dois pardonner. Et c'est beaucoup mieux pour nous. Même si la personne ne sait pas, ne sait rien, c'est mieux pour nous. Ça nous permet de guérir ces problèmes émotionnels, on va dire. Une deuxième locus d'amertume, nous pouvons être amers contre une personne à cause de la jalousie, parce que nous jalousons quelque chose que cette autre personne a et peut-être ne mérite pas, et nous on le mériterait mieux que lui. Ça peut être un conjoint, ça peut être un confrère, ça peut être quelqu'un d'autre. La jalousie crée bien des amertumes. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 14. Jacques chapitre 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et le mot zèle est parfois traduit par jalousie, une jalousie amère. Les deux mots sont liés ici. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Un zèle amer, une jalousie amère. Si nous sommes jaloux de quelqu'un, il a quelque chose que je veux, je le mérite plus que lui, l'amertume peut se développer à partir de cela, à cause de la jalousie. La version Darby traduit zèle par jalousie. Si vous avez une jalousie amère, d'autres ont ce que nous estimons être notre dû. Ça peut être le cas d'un cas, ça peut être la cause plutôt d'un cas très grave d'amertume, quand nous jalousons d'autres personnes. Nous pouvons même être amers, j'en ai déjà rencontré des personnes qui sont amères contre la vie en général, parce que la vie n'est pas tournée comme ils pensaient. Ils pensaient que leur situation serait différente. Ils ont beaucoup travaillé et ça n'a pas donné ce qu'ils estimaient. Et ils commencent à voir la vie en noir. On peut devenir amer parce que la vie ne progresse pas comme nous l'avions imaginé. C'était plus dur, il y avait des épreuves inattendues, la maladie, la mort de notre chair. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement inattendues. Nous ne pensions pas à cela et nous pouvons devenir amers contre la vie. Quand nous sommes éprouvés là où nous ne pensions pas, nos projets n'ont pas réussi comme on espérait, etc. Nous devons garder nos yeux sur la fin heureuse de l'histoire humaine, la fin heureuse de notre vie, finalement, au retour de Jésus-Christ, et ne pas nous concentrer, ne pas ressasser constamment ce que nous n'aimons pas. Il faut garder les yeux sur le verre à moitié rempli plutôt que à moitié vide. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Verset 10, Ecclésiaste chapitre 7, verset 10, « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » Nous ne devrions pas être trop fermes dans nos attentes de la vie et savoir qu'il va y avoir des aléas et que nous devons les traverser. C'était si bien avant, et maintenant, tout est mauvais maintenant. Ce n'est pas sage. Ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ce n'est pas une question à poser, d'après Dieu. Pourtant, nous sommes tentés de le faire. Et un autre objet d'amertume, parfois, j'ai déjà même rencontré ceci plusieurs fois au sein de l'Église, les gens deviennent amers contre Dieu. Parce que Dieu n'intervient pas au moment et comme il voudrait pour les aider à sortir d'une épreuve, ça dure très longtemps et on commence à blâmer Dieu, on commence à penser qu'il n'est pas motivé par l'amour, qu'il nous laisse là, il est indifférent. C'est facile pour nous de raisonner, mais je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, il devrait m'aider et je ne vois pas d'aide. Et ça peut porter finalement à l'amertume. Mais Dieu pourrait arrêter cette épreuve. Là, je traverse depuis des années. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas quelque chose? C'est pas juste, on est tenté de dire parfois. Mais nous savons que nous ne devons pas nous fâcher contre Dieu. À quoi bon? Ça ne fait rien de bon. Nous devons laisser partir la frustration et ne pas le garder. Parce que si nous gardons cette frustration contre Dieu dans notre cœur, nous allons devenir vraiment amers. Et ça finira par nous détruire. Nombre chapitre 13. Prenons un exemple. Nombre chapitre 13. Dieu avait promis la terre promise aux Israélites. Nombre chapitre 13, verset 32. Et juste au moment où il allait leur donner cette terre promise, les Israélites se sont entêtés à voir tout en noir. C'est pas bien, c'est pas possible, ça n'a pas marché, et ainsi de suite. Nous allons le lire ici dans Nombre chapitre 13, verset 32. Les espions sont revenus, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Petite exagération, n'est-ce pas? Même grosse exagération. Alors, verset 1, chapitre 14, ils ont décidé de voir tout au noir. Dieu était au point de leur accorder la terre promise et ils refusaient d'y aller. Toute l'assemblée, verset 1, éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants, nos petits-enfants deviendront une proie? Verset 4, et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Juste au moment où Dieu allait leur donner la terre, parce qu'ils ont décidé de regarder les choses en noir, c'est pas possible, ça ne va pas marcher, etc., en oubliant tous les miracles que Dieu avait déjà fait pour les libérer, pour les faire traverser le désert, les nourrir et tout cela, non, ils ont refusé, non, on va pas y aller. Et nous savons la suite de ce qui s'est passé. Mais ça montre que la tendance peut être là pour un être humain. Simplement, par la façon dont il décide de prendre une situation ou de considérer une situation, il va pas voir les choses de manière réaliste et ça finira par lui créer énormément de problèmes, comme ce fut le cas ici. Prenons un autre exemple dans Jonas. Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 4 à partir du verset 1. Dieu allait donner la terre promise aux Israélites, mais pas comme eux ils l'avaient imaginé. Et puisque ce n'était pas comme eux ils l'avaient imaginé, ils ne voulaient pas. Et c'était une grosse erreur qu'ils ont beaucoup regrettée par la suite. Jonas chapitre 4, verset 1. Fin du chapitre 3, Dieu a pardonné les gens de Ninive. Il ne va pas détruire la ville maintenant. Et cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et le dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est que je voulais prévenir en fuyant à Tarse, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Puisque Dieu avait fait les choses autrement que ce que Jonas espérait, ce qu'il comptait voir, il préférait mourir. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Peut-être que Dieu changerait d'avis, peut-être que les gens vont pécher de nouveau, ils seront détruits. Il voulait savoir ce qui allait se passer. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Irritation. Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Une façon dure de parler à Dieu. L'Éternel dit, « Tu as eu pitié du ricin qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Fin de livre. Dieu laisse tout cela avec une question. Mais là, on voit l'amertume en action également. Jonas voulait sa propre volonté, il n'acceptait pas d'attendre la volonté de Dieu. Et voilà ce qui s'est passé pour lui. Il a servi de leçon pour nous. Nous ne devrions pas nous laisser emporter par cette amertume, cette irritation. Prenons le cas de Job également, Job chapitre 13. Job, chapitre 13. Verset 3. Job, chapitre 13, verset 3. Job se plaint ici et il veut avoir une discussion avec Dieu. Il veut des réponses à ses questions. Pourquoi? J'ai le droit de savoir. Job, chapitre 13, verset 3. Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu, car vous, vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allégueriez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? Ce que je subis est injuste. Il n'y a pas d'excuse possible pour cela, dit Job. Verset 13. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Si Dieu me punit pour mes paroles, soit. Je veux parler, je vais parler. Et il continue dans ces termes-là. Chapitre 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée, il est coupé comme une fleur, il fuit, il disparaît comme une ombre, et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortirait-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. J'ai pas de chance. C'est fichu à l'avance, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner, je vais perdre automatiquement. Et ça continue comme cela pour bien des chapitres. Finalement, dans Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Comment oses-tu me parler comme cela, comme si tu savais tout ce que je sais, moi, en d'autres termes? Qui est celui qui fait ça? Qui ose faire cela? » Chapitre 40, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit, pour prétendre avoir raison? Tout cela est faux, ce que tu dis là, Job. Je sais bien plus que ce que tu sais. Dieu est parfaitement juste ou il ne l'est pas. Nous devons avoir cette question, une réponse solide à cette question dans nos cœurs. Est-ce que Dieu est parfaitement juste ou est-ce qu'il ne l'est pas? Il est, la Bible dit qu'il est, mais parfois il y a des choses dans la vie que nous ne comprenons pas. Et nous devons prendre notre mal en patience, sachant qu'il y a une fin heureuse à l'histoire finalement. Job 42, verset 1. Job 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Et finalement, Dieu n'a pas vraiment répondu à ces questions. Mais quand il a vu la grandeur de Dieu, le tourbillon, le vent impétueux et tout ça, il s'est rendu compte qu'il était petit et qu'il disputait avec son Créateur et que c'était bête de le faire. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et nous devrions apprendre la leçon de Job et ne pas nous fâcher contre Dieu, ne pas devenir amer contre la vie si la vie ne tourne pas comme on l'aurait imaginé. Quoi faire pour faire face à l'amertume? Première chose à faire, c'est de reconnaître que la colère est là. Et nous devrions nous examiner pour savoir est-ce qu'il y a une colère persistante en moi contre quelqu'un, ou contre quelque chose, ou contre la vie. Si la colère est là, si nous sommes souvent fâchés, ça c'est un problème. Ça c'est la cause de l'amertume. Et nous devons enlever, nous devons apaiser cette colère. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il faut régler ça rapidement. Le soleil ne doit pas se coucher. Avant d'aller au lit le soir, on devrait avoir réglé ça. Et si Dieu nous dit de le faire, c'est possible. Même si ça nous semble parfois difficile, c'est possible. C'est possible de régler ce problème avant que le soleil ne se couche, avant que nous nous mettions au lit. Deuxièmement, si l'amertume est contre une personne, nous devrions prier pour cet individu. Demander à Dieu de l'aider, de le bénir, de se rendre compte peut-être du mal qu'il fait également, mais prier en sa faveur. Ça, c'est ce que nous devons faire. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Verset 27. Luc chapitre 6, verset 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je vous invite à vous poser une question. C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour quelqu'un qui vous a fait du mal? S'il faut réfléchir longtemps dans le passé, nous ne sommes pas en train de pratiquer ces instructions de la part de Dieu. On devrait pouvoir penser à quelque chose de récent. Parce que on est froissé par des gens à différents moments, que ce soit dans la famille, dans la congrégation, là où nous sommes. Et ça devrait être un réflexe pour nous. Cette personne m'a fait du mal, il faut que je prie pour lui ou pour elle. Que je demande à Dieu de le bénir et de l'aider à voir clair, à comprendre ce qui se passe. Ça, c'est la réponse mûre spirituellement. Et c'est ce que Jésus nous dit de faire. Si nous voulons avoir une grande récompense, c'est comme ça que nous devons agir. Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à nous débarrasser de l'amertume. Et nous devrions continuer de demander jusqu'à ce que le problème s'en aille. Et nous devons prier pour la personne qui nous a fait du mal jusqu'à ce que la colère disparaisse. Ça, c'est ce que la Bible nous dit de faire si nous ressentons de l'amertume contre une personne. Si c'est contre Dieu, admettons que ça arrive parfois à quelques personnes, si c'est contre Dieu ou contre la vie, nous devrions remerciez Dieu en détail pour toutes nos bénédictions. Remerciez Dieu en détail pour toutes nos bénédictions. Je me souviens d'avoir lu l'histoire d'une dame qui vivait avec son mari et ses deux enfants dans une toute petite cabane. Alors, les parents de son mari ont perdu leur maison et ils devaient venir habiter avec la famille dans leur petite, toute petite maison, cabane. Et c'était trop. Les parents toussaient, il y avait trop de monde dans la cabane. La femme ne supportait pas, c'était insupportable pour elle. Alors, désespérée, est allée voir l'homme sage du village. Il avait résolu déjà bien des problèmes de par le passé, il avait une bonne réputation. Alors elle lui a demandé, qu'est-ce que je dois faire? Cette situation est insupportable. Avez-vous une vache? demanda le vieil homme. « Ben oui, répliqua-t-elle, amenez la vache aussi dans votre cabane, puis revenez me voir, dans une semaine. » Une semaine après, elle est retournée le voir. « C'est complètement insupportable, » dit-elle. « Avez-vous des poules ?» demanda l'homme sage. « Oui, et alors ?» la dame demanda, « Amenez-les dans la cabane aussi, et revenez me voir dans une semaine. » « Vous êtes devenu fou, » dit la femme. Mais comme il avait une réputation si impressionnante, elle a fait comme il avait conseillé. Une semaine après, elle est retournée, « C'est absolument impossible, » a-t-elle dit. « Notre maison est une porcherie de plumes, de bouse et de gens. » « Bon, » dit l'homme sage, « sortez les poules. » La semaine suivante, quand elle était revenue, « Les poules, sans les poules, c'était beaucoup mieux, » a dit la femme. « Mais c'était encore misérable. »« Bien, maintenant sortez la vache. Cela réglera votre problème. » Et ce fut ainsi. Sans les poules et la vache, la femme, son mari, leurs deux enfants et les deux parents s'entendaient très paisiblement. Parce que tout est relatif. Ce qui semble insupportable peut comparer à notre situation, avoir l'air complètement supportable. Parfois, nous ne savons tout simplement pas à quel point nous sommes bénis. C'est facile pour l'être humain d'ignorer les bénédictions et d'oublier à quel point nous sommes bénis. Une quatrième chose, pour enlever l'amertume, la colère, l'irritation, l'amertume, nous devons nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous devons marcher par la foi, obéir à ce que Dieu nous dit, même si nos yeux nous indiquent que ça ne va pas, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas supportable. La Bible nous dit que nous pouvons tout supporter avec l'aide de Dieu, que nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces, et ainsi de suite. Beaucoup de promesses. Nous devons nous concentrer sur le fait qu'en tant que chrétiens, nous devons marcher par la foi et non par la vue. C'est une grande clé d'être épanoui dans la vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. C'est ce qui est marqué. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Quoi qu'il arrive, Paul dit, je vais obéir à ce que Dieu dit. Je vais marcher par la foi et non par la vue. Dernier passage maintenant dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 28, passage que vous connaissez certainement par cœur, mais c'est une bonne façon de clore ce sujet aujourd'hui de l'amertume. Et après la fin de l'assemblée, à la fin du sermon, c'est là où le travail commence. C'est là où l'effort doit commencer pour extirper toute amertume qui pourrait avoir trouvé un lieu d'habitation dans notre cœur. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous nous sentons frustrés, si nous ressentons la colère contre quelqu'un à cause d'une mauvaise action, nous devrions nous rappeler, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même cette situation désagréable va tourner à mon bien si je réagis comme il faut, si je réagis correctement. Alors, frères et sœurs, débarrassons-nous de toute amertume, en particulier à l'approche de la Pâque et la fête des pains sans levain. Sachons pardonner, sachons suivre Dieu là où il nous amène, où que ce soit. Le chemin peut parfois être difficile, mais la destination finale, c'est la vie éternelle dans la famille de Dieu, là où il n'y aura plus jamais d'amertume.